Freitag und Nacht für dich.
Bien, vous écoutez Bonsoir Paris, Bonjour l'amour de Angèle Durand, morceau.
Bonsoir, inoubliable. Bonsoir Paris, ein Paradies,
Paradis.
Von Pigalle bis zur Seine, verliebt, singt mein Herz immer nur. Bonsoir Paris, bonjour l'amour. Sagst du abends dem Montmartre, Moulin Rouge und Sacré-Cœur,
Moulin Rouge und Sacré-Cœur,
Place de la Concorde,
Place de la Concorde,
in seinem Lichtermeer, gingst auch du entlang der Seine.
Vous serez d'accord avec moi qu'il est sans doute temps que ce cours s'arrête. Et c'est ce qui va bientôt se passer, car nous entrons dans la dernière ligne droite. Un cours aujourd'hui sur les quasi-contrats. Puis je vais poster quelques éléments sur le régime de l'obligation pour que vous ayez une compréhension au moins élémentaire des mécanismes qui relèvent du régime de l'obligation. Et puis dans la semaine, je vais également vous donner des indications sur l'examen, la manière dont il va se dérouler, ce qu'on attend de vous. Est-ce que je vais vous donner le sujet ? Je ne le pense pas, mais peut-être des indications utiles. Et puis, voilà, donc le temps avance sans qu'on n'ait pu se revoir. Et vous imaginez bien que cette distance physique, qui n'est pas une distance sentimentale, car vous êtes extrêmement présent, aussi bien dans mon esprit que dans celui de l'ensemble de l'équipe pédagogique, cette distance physique enlève beaucoup à la relation que l'on avait ensemble, mais n'empêche pas que nous souhaitons tous, que je souhaite, votre réussite et la possibilité de vous retrouver au plus vite, en pleine forme physique, en pleine forme mentale, avec plein d'envie, de ressort et d'énergie. Voilà, il est temps de reprendre un petit peu le cours de ce cours et la question des quasi-contrats. Nous allons donc désormais parler des quasi-contrats dans un livre 3, puisqu'il s'agit de la troisième source d'obligation. Livre 3, les quasi-contrats. Ces quasi-contrats, ils sont désormais traités dans le Code civil dans un sous-titre 3 consacré aux autres sources d'obligation, après le sous-titre consacré aux contrats, et celui consacré à la responsabilité civile extra-contractuelle. Et ces quasi-contrats sont définis à l'article 1300 du Code civil. Je cite, « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. » Je relis cette définition. Ce sont des faits purement volontaires, dit l'article, dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. On est donc en présence d'un fait volontaire, qui profite à celui qui en bénéficie, d'un fait volontaire qui profite à celui qui en bénéficie, alors même qu'il n'en avait pas le droit. Dans le quasi-contrat, il y a un peu du contrat du fait de la présence de la volonté des parties. De Melombe disait d'ailleurs, il est quasi un contrat, quasiment un contrat. Mais pour autant, ce n'est pas un contrat, car c'est un fait juridique licite, certes, mais bien un fait juridique, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'intention entre les parties de créer une obligation. C'est la loi qui donne effet à la situation juridique créée, à une situation juridique licite. Licite est donc distincte de celle à laquelle correspond le délit ou le quasi-délit. Les quasi-contrats sont une institution très vivante. Dans le Code civil, originellement, en 1804, il n'y en avait que deux, la gestion d'affaires et la répétition de l'indu. La jurisprudence va ajouter un troisième quasi-contrat qui s'appelle l'enrichissement sans cause. Elle va l'ajouter à partir d'un arrêt de 1892. On sait donc depuis 1892 que la liste des quasi-contrats du Code civil n'était pas limitative, et on va en reprendre conscience à la fin du XXe siècle, car la jurisprudence va ajouter un quatrième quasi-contrat s'agissant des loteries publicitaires avec pré-tirage. Vous savez, ces hypothèses dans lesquelles une institution, un organisme vous fait croire, nous fait croire que nous avons gagné un prix ou bien de l'argent ou un voyage ou n'importe quelle autre gratification. Après tirage au sort, nous sommes les heureux gagnants de ce prix, mais ce n'est pas vrai. La Cour de cassation va décider à partir de la fin du XXe siècle de mettre de l'ordre en sanctionnant les organisateurs des loteries publicitaires mensongères, trompeuses, qui peuvent conduire certains à croire en de fausses promesses. Et dans cette hypothèse, la Cour de cassation va hésiter sur le fondement à partir duquel elle sanctionnera l'organisateur de la loterie publicitaire. Et j'allais dire que tous les fondements vont y passer. J'en ai déjà parlé au tout début de ce cours. Aussi bien l'engagement unilatéral de volonté, vous vous en souvenez, ou bien la reconnaissance d'un contrat entre l'organisateur et le bénéficiaire de la loterie publicitaire, censé être bénéficiaire de la loterie publicitaire, ou bien encore sur le terrain de la responsabilité civile. Et puis pour finir, elle va, et c'est pour ça que j'en parle ici, elle va consacrer un quatrième quasi-contrat à partir d'un arrêt rendu en chambre mixte le 6 septembre 2002, elle va juger que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer. L'organisateur d'une loterie, je répète, qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer. Ce qui est intéressant, c'est que ce quatrième quasi-contrat est au fond très différent des trois autres. Il est, on peut le dire, en rupture de philosophie avec les autres quasi-contrat, car au fond, ici, la victime n'a pas profité d'un enrichissement injuste, elle ne s'est même pas enrichie, elle a juste espéré, et de l'autre côté, ce qui s'est passé de la part de l'organisateur, c'est bien un acte illicite, car il a menti. On est donc bien dans une philosophie très différente des autres quasi-contrats, vous allez vous en rendre compte, car on va les étudier tour à tour. J'ajoute que la réforme du droit des contrats en 2016, si elle a consacré l'enrichissement sans cause au titre des quasi-contrats désormais codifiés dans le Code civil, alors qu'il trouve sa source dans la jurisprudence, elle n'a pas, en revanche, codifié, repris la solution de la Cour de cassation concernant les loteries publicitaires. Il n'y a pas quatre quasi-contrats dans le Code civil désormais, il n'y en a bien que trois. Et ces trois-là, nous allons les étudier tour à tour. Chapitre 1, la gestion d'affaires. Normalement, normalement, on ne se mêle pas des affaires d'autrui, mais il arrive parfois que certains gèrent sciemment et de façon utile ou opportune l'affaire d'autrui. Et on est souvent dans ce type d'hypothèse, dans un schéma altruiste. Quelqu'un intervient au profit d'un autre avec une forme de vraie générosité, d'altruisme. Et ça va, dit le Code civil, créer des effets de droit. L'article 1301 dispose ainsi, car vous savez qu'un article, oui c'est ça, dispose, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. Est soumis dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion à toutes les obligations d'un mandataire. Le plus simple est tout de même que vous ayez votre code civil devant vous. Ça vous permet de suivre plus facilement. Et vous vous souvenez d'ailleurs que j'en avais donné un exemple tout au début de l'année quand j'avais évoqué cet étudiant qui vient s'occuper de la fuite de sa voisine au 7e étage où il y a les chambres de bonne. Sa voisine est parti en vacances. Lui, il révise ses examens et il se rend compte qu'il y a une fuite chez sa voisine. Il appelle le plombier, il appelle peut-être même le serrurier pour pouvoir ouvrir la porte. Il dépense de l'argent pour elle et il dépense de l'argent pour pouvoir mettre fin à cette fuite et réduire autant que possible les effets négatifs de ce sinistre. Il est altruiste. Il gère non pas son affaire, ce n'est pas chez lui qu'il y a une fuite, c'est bien l'affaire d'autrui. Et son acte est un acte spontané et opportun. La gestion d'affaires renvoie en effet à des actes spontanés et opportuns. Spontané, ça veut dire quoi ? Spontané, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation préexistante. L'obligation d'agir au profit d'autrui ne figure ni dans la loi, ni dans un contrat préexistant, c'est une initiative que va prendre celui qui gère l'affaire d'autrui, le gérant de l'affaire d'autrui. Et elle est opportune, car il faut que cette gestion ait un intérêt pour celui qui va en bénéficier. J'ai parlé du gérant. Le gérant, c'est celui qui agit spontanément. Et l'autre partie, celle qui va en profiter, c'est le maître de l'affaire. La gestion d'affaires, c'est une institution vivante. Elle s'est développée au cours du XXe siècle. On en trouve de nombreux exemples. Je viens de parler de l'acte d'assistance qui peut profiter à autrui, mais on a bien d'autres exemples d'actes d'assistance profitant à autrui, y compris l'acte d'assistance à la personne même d'autrui. On vise aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, l'hypothèse de l'arrestation d'un voleur qui détient des sommes qu'il a volées et donc en l'arrêtant, ces sommes vont pouvoir retourner dans le patrimoine de leur propriétaire. Ça profite à autrui. C'est une institution vivante, alors même qu'initialement, en 1804, ses applications étaient assez limitées. La jurisprudence, au fond, l'a développée. Je viens de parler de l'acte d'assistance à autrui, je viens de parler de l'arrestation d'un voleur, je pourrais parler encore des travaux que fait un copropriétaire au bénéfice de l'ensemble des copropriétaires, ou je peux parler encore des actes d'un époux au profit de son conjoint. Dans toutes ces hypothèses, c'est une forme d'altruisme, de générosité qui s'exprime. Section 1, les conditions de la gestion d'affaires. Première condition de la gestion d'affaires, paragraphe 1, l'intention de gérer l'affaire d'autrui. Je pars de l'article 1301, celui qui, sans être tenu, gère sciemment l'affaire d'autrui. La première condition, c'est donc bien une intention de gérer l'affaire d'autrui. Et cette condition, elle avait disparu au XIXe siècle, à un moment donné où la jurisprudence n'avait pas encore inventé l'enrichissement sans cause. Et comme elle n'avait pas inventé l'enrichissement sans cause, elle avait voulu élargir la gestion d'affaires. Et pour l'élargir, elle avait considéré qu'on pouvait y faire rentrer des hypothèses qui normalement n'en relèvent pas. Et pour cela, elle avait écarté cette condition d'intention de gérer l'affaire d'autrui. En 1892, dans l'arrêt qui a consacré l'enrichissement sans cause, la Cour de cassation a inventé un troisième quasi-contrat, de sorte qu'elle n'avait plus besoin d'emprunter la voie de la gestion d'affaires. Elle est donc revenue à l'orthodoxie en imposant à nouveau l'intention de gérer l'affaire d'autrui dans un arrêt important du 28 octobre 1942. Si je résume ce que je viens de dire, la première condition, c'est l'intention de gérer l'affaire d'autrui. Première condition que la Cour de cassation a écartée au XIXe siècle pour élargir le domaine de la gestion d'affaires à un moment où il n'y avait pas d'enrichissement sans cause. Puis, ayant consacré l'enrichissement sans cause, elle est revenue à l'orthodoxie avec un arrêt du 28 octobre 1942. Prenons l'exemple, pour illustrer ce que je suis en train de dire, d'un propriétaire qui fait des travaux sur le bien et puis finalement, il apprend qu'il n'est pas propriétaire. Il apprend qu'il n'est pas propriétaire et il a pourtant fait ses travaux. On va donc considérer que ses travaux ont bien été effectués sur une propriété qui n'est pas la sienne, le bien d'autrui. Est-ce qu'il y a gestion pour autrui? Est-ce qu'il y a gestion d'affaires? Réponse non, car il est intervenu sur l'affaire d'autrui, mais en croyant que c'était la sienne. Et par conséquent, il n'est pas intervenu sciemment dans l'affaire d'autrui. Il n'a pas eu la volonté et l'intention de gérer l'affaire d'autrui. Et par conséquent, dans une telle hypothèse, il n'y a pas gestion d'affaires. C'est ce que montre d'ailleurs très clairement un arrêt dont s'inspire l'exemple que je vous donne de la troisième chambre civile du 13 janvier 1999. 13 janvier 1999. Autrement dit, le gérant ne doit pas avoir agi par erreur pour autrui. Il doit avoir agi de façon volontaire pour le compte d'un tiers. Notez toutefois que cela n'implique pas que l'on connaisse nécessairement l'identité de ce tiers. On peut agir pour un tiers qu'on ne connaît pas et ça relèvera de la gestion d'affaires. Ce qui compte, c'est qu'on agisse sciemment pour le compte d'un tiers. Quid alors lorsque le gérant agit dans son intérêt propre? Je viens de donner la réponse indirectement. Si le gérant agit dans son intérêt propre, ça n'est pas de la gestion d'affaires. Quid s'il agit partiellement dans son propre intérêt et pour partie dans l'intérêt d'un tiers, alors là, oui, il y a une place pour la gestion d'affaires lorsque l'acte accompli par le gérant lui profite pour partie et profite au tiers également. L'article 1301-4 du Code civil traite de cette hypothèse lorsqu'il dispose que l'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires. Exemple, une personne agit comme un généalogiste en cherchant les héritiers d'une personne décédée pour pouvoir elle-même hériter. Elle se découvre bien héritière, mais elle découvre aussi que d'autres personnes le sont en même temps qu'elle. À l'égard de ces autres personnes, elle a géré leur affaire. Elle peut se prévaloir de la gestion d'affaires. Quid encore lorsqu'une personne agit en vertu d'une obligation légale qui lui impose d'agir? Réponse, il n'y a alors pas gestion d'affaires, car elle est tenue d'agir. Ce n'est pas un acte altruiste, c'est une obligation légale. Par exemple, une personne est obligée de par la loi d'entretenir les biens d'une entreprise. Elle le fait. Ça n'est pas de la gestion d'affaires. La gestion d'affaires, c'est un acte spontané qui n'est pas lié à une obligation légale. À propos de cette obligation légale, il y a eu un arrêt assez important qu'on appelle l'affaire du BHV de la Cour de cassation du 7 janvier 1971. Il s'agit d'une personne qui va poursuivre le voleur du BHV, qui va finir par l'arrêter, mais qui va être blessé en poursuivant le voleur de ce grand magasin. Et la question est de savoir si celui qui a ainsi arrêté le voleur, ce qui profitera nécessairement au BHV, puisqu'on va pouvoir récupérer l'objet du vol, l'objet du larcin, cette personne peut-elle agir en indemnisation sur le terrain de la gestion d'affaires ? Réponse de la Cour de cassation, non. Non, parce qu'on agit ici en vertu d'une obligation légale. L'obligation légale, c'est l'obligation de participer à l'arrestation d'une personne qui cause un crime ou un délit, en l'espèce un vol. Et donc, il n'y a pas d'acte spontané, de gestion spontanée de l'affaire d'autrui. Moi, je trouve que cet arrêt est un peu tiré par les cheveux, et la jurisprudence le trouve aussi, puisqu'il y a des arrêts en sens contraire. Des arrêts dans lesquels un client qui récupère une partie du butin après avoir poursuivi le ou les malfaiteurs a le droit à la protection de la gestion d'affaires. C'est fondé, ça correspond à la philosophie finalement de la gestion d'affaires. On est en présence d'actes désintéressés, altruistes, et ça n'est pas parce qu'il y a au loin, si je puis dire, une obligation légale éventuelle, un peu floue, qu'elle devrait empêcher, en l'espèce, sur cet exemple-là, la gestion d'affaires. Deuxième condition, si vous le voulez bien, paragraphe 2, l'absence d'opposition du maître aux actes accomplis ou réalisés à l'insu du maître. Au fond, la condition que j'évoque, c'est une condition d'absence d'opposition du maître de l'affaire. Si le maître s'oppose à l'intervention du gérant, s'il décline en quelque sorte la proposition qui lui serait faite, alors la gestion d'affaires ne peut pas être invoquée pour fonder une indemnisation du gérant. Et on conçoit d'ailleurs assez vite qu'il serait incohérent que le maître doivent indemniser le gérant alors qu'il a refusé l'acte. Je peux dire à l'inverse que si le maître accepte une proposition qui lui serait faite pour réaliser des actes sur ses biens, par exemple, eh bien, s'il accepte cette proposition, alors on considérera qu'il y a contrat. Et vous voyez que c'est assez intéressant. D'un côté, si le maître s'oppose, il n'y a pas de place pour la gestion d'affaires. De l'autre, si le maître accepte par avance, c'est un contrat. Et au fond, la gestion d'affaires, elle se situe dans un entre-deux, entre ces deux hypothèses, et elle correspond à une hypothèse dans laquelle il n'y a ni opposition, ni réalisation avec l'accord du maître. Paragraphe 3, troisième condition, les actes de la gestion d'affaires. Ces actes, ils peuvent être matériels. Par exemple, réparer une toiture. Ou bien ils peuvent être juridiques. Par exemple, la conclusion du contrat avec le couvreur qui se chargera lui-même de réparer la toiture. En toute hypothèse, qu'ils soient matériels ou juridiques, ces actes doivent être nécessaires. Il faut une nécessité de réaliser l'acte, on peut même dire une impérieuse nécessité. un voisin qui se met à repeindre la maison de son voisin pour se faire plaisir, il n'y a pas de nécessité. Et il ne va pas ensuite aller voir le voisin en lui demandant le remboursement au titre de la gestion d'affaires. Il aura d'ailleurs de sérieux problèmes si on suit mon exemple. Et puis ces actes doivent être non seulement nécessaires, mais ils doivent être utiles. Cette utilité s'apprécie d'ailleurs au moment de l'accomplissement de l'acte. On ne va pas, ça se comprend facilement, s'amuser à indemniser une personne qui a accompli des actes inutiles qui coûtent de l'argent. Si ces actes sont coûteux, il faut qu'ils soient utiles. Bref, la jurisprudence nous dit que la mauvaise surprise n'est pas indemnisable. Section 2, les effets de la gestion d'affaires. Vous avez donc eu la gentillesse, la bonté même, d'appeler le plombier, de faire ouvrir la porte de la voisine, de réparer la fuite qui commençait à endommager la chambre de bonne de la voisine alors qu'elle n'est pas là, qu'elle est en vacances. Quels sont les effets de cette gestion d'affaires? Paragraphe 1, les obligations du gérant. Le gérant a plusieurs obligations, dont une qui est fondamentale. Il ne doit pas être velléitaire. Velléitaire, ça veut dire qu'il ne doit pas débuter un acte qui serait au profit du maître de l'affaire et s'interrompre en plein milieu. L'article 1301-1 dispose ainsi, je vous le lis, vous l'avez devant vous avec vos codes, il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable. Il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir. Le juge peut, dit l'alinéa 2, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. Apporter à la gestion d'affaires, dit l'article 1301-1, tous les soins d'une personne raisonnable. Il faut en effet se comporter de façon raisonnable, c'est la moindre des choses, puisque ça n'est pas sa propre affaire. Et en cas de faute du gérant, on conçoit alors que s'il peut quand même y avoir dans certains cas indemnité, il faudra tenir compte d'une modération de l'indemnisation du gérant en raison de sa faute. J'ajoute que, au titre des obligations du gérant toujours, le gérant doit rendre compte de sa gestion comme un mandataire, on verra ça l'an prochain, doit le faire en contrats spéciaux. Paragraphe 2, les obligations du maître. Le maître de l'affaire, qui en profite par hypothèse, puisqu'il s'agit pour lui de bénéficier d'actes nécessaires et utiles, il a plusieurs obligations. Il a plusieurs obligations. Tout d'abord, il doit remplir les engagements contractés par son gérant. Et donc, si le gérant a contracté avec un tiers au profit du maître, le maître va devoir remplir les engagements qui ont été contractés dans son intérêt. Le maître doit aussi rembourser les frais qui ont été faits dans son intérêt. Et puis enfin, il doit indemniser le gérant dans les dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Par exemple, si le gérant a avancé de l'argent, dans mon exemple de tout à l'heure, pour appeler le plombier, le rémunérer, éventuellement assorti d'un serrurier, le gérant doit pouvoir être indemnisé et donc rembourser des sommes qui sont avancées. On parle ici d'une indemnité car dans tous les cas, il n'aura pas droit à un profit. Sinon, ce ne serait plus un acte désintéressé. Il pourra toutefois avoir le droit à percevoir un intérêt sur les sommes avancées. C'est juste une question d'actualisation. Voilà donc pour le premier quasi-contrat, la gestion d'affaires. Passons au deuxième quasi-contrat, le paiement de l'indu. Donc, le paiement de l'indu, idéalement, vous pouvez vous en remettre à l'article 1302 qui vous permet de comprendre que tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. On se trouve dans une hypothèse qui semble assez évidente, où un paiement a été effectué alors que il n'aurait pas dû l'être, et il va y avoir lieu à restitution des sommes versées. On dit aussi répéter les sommes, action en répétition, dit-on. Le vocabulaire le plus simple est de dire restitution. Si je rentre un peu dans le détail, je vais dire tout de même que le paiement a été effectué soit alors qu'aucune somme n'était due, soit alors qu'une somme était due, mais pas à celui à qui on a versé l'argent, soit on a bien versé l'argent à la bonne personne, mais soi-même on ne le devait pas. Ce qui fait au fond trois hypothèses différentes. Je vois que vous êtes en train de réfléchir à la troisième par rapport aux précédentes. Ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai, mais vous pouvez constater dans le code que les articles 1302-1 et 1302-2 reprennent ces hypothèses. Section 1, les conditions de l'action en répétition. Il faut tout d'abord, paragraphe 1, un paiement indu. Il y a une personne qui paye et une personne qui reçoit. Ça, c'est le schéma de base, le plus simple à comprendre. Celui qui paye, on l'appelle le solvens, S-O-L-V-E-N-S, et celui qui reçoit, on l'appelle l'accipiens, A-2-C-I-P-I-E-N-S. Et il faut un paiement indu, grand A, un paiement. Un paiement, ah oui, parce que s'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas d'action visant à récupérer des sommes, visant à récupérer une chose, il faut effectivement qu'il y ait eu un paiement. Ce paiement peut se faire soit par la remise d'une somme d'argent, soit par la remise d'une chose. Et il faut, c'est là le plus intéressant et le plus important, que ce paiement soit indu. Grand B, un indu. L'indu, il peut être soit objectif, soit subjectif. Ce qu'on appelle l'indu objectif, c'est l'hypothèse dans laquelle on paye une dette qui n'existe pas. Ça peut arriver. On pense qu'on est débiteur, on se trompe. En réalité, on pense qu'il y a une dette. Il n'y en a pas. C'est un indu objectif avec une variante qui consiste éventuellement à payer plus que ce qui est dû. La partie payée en sus de ce qui est dû correspond à un indu objectif. L'indu peut être aussi subjectif. Dans ce cas, il y a bien une dette, mais elle n'est pas entre le solvens et l'accipiens, et ça renvoie à deux hypothèses qui sont celles que j'ai évoquées précédemment. Une personne paye bien une dette qu'elle doit, le solvens doit bien de l'argent, mais il le paye à un autre que le créancier lui-même. C'est un indu subjectif car il tient aux personnes. Et puis, l'indu est aussi subjectif dans l'hypothèse symétrique. Il y a bien une dette, mais cette fois, c'est l'accipiens qui est bien le créancier. Et en revanche, le solvens n'est pas le débiteur. Ce n'est pas lui qui devait l'argent, c'est un autre qui devait l'argent. Il a donc payé sans devoir. C'est un indu subjectif avec une dette qui existe bien, qui correspond bien, mais pas dans la même relation entre ces deux personnes. Paragraphe 2, l'erreur du solvens. La question est la suivante. Pour accepter l'action en répétition, pour admettre l'action en répétition, faut-il que le solvens ait commis une erreur ? Et donc la question est la suivante. Est-ce que l'erreur du solvens est une condition de l'action en restitution ? Notez que je ne m'interroge que sur l'erreur du solvens. Dans tous les cas, l'erreur de l'accipiens n'importe pas. Il peut recevoir, dit l'article 1302-1, il peut recevoir par erreur ou sciemment ce qu'il ne lui est pas dû et il devra le restituer. Peu importe donc, dit l'article 1302, que ce soit par erreur ou que ce soit sciemment. L'erreur du solvens, l'article 1302 dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. L'indu qui est visé ici est un indu subjectif. On a acquitté la dette d'autrui, ça veut bien dire qu'il y a une dette qui existe, mais c'est celle d'autrui. C'est une dette d'autrui et il y a une condition d'erreur qui est limitée à ce seul indu subjectif, c'est-à-dire l'indu subjectif dans le cas où le débiteur paye la dette d'autrui. Le solvens n'est pas le vrai débiteur, l'accipiens est le vrai créancier. C'est ma troisième hypothèse dans les trois cas que j'ai visés tout à l'heure. C'est la deuxième hypothèse d'indu subjectif. Par exemple, une personne paye une dette à la place du débiteur au vrai créancier. Imaginons, pour les besoins du raisonnement, qu'elle ne le fait pas par erreur, qu'elle le fait sciemment. Si une personne paye une dette à la place du débiteur au vrai créancier et qu'elle le fait sciemment, c'est peut-être parce qu'elle veut faire une donation au vrai débiteur, c'est peut-être parce qu'elle veut lui faire une avance. C'est le père qui paye une somme que doit l'enfant. Il ne le fait pas par erreur, ça n'est pas un paiement indu dans cette hypothèse. Dans ce cas seulement, l'erreur du solvens est une condition de la répétition de l'indu. Il faut dire, pour être complet, que pendant longtemps, la jurisprudence ne distinguait pas entre les trois cas de répétition de l'indu et elle avait exigé l'erreur du solvens dans toutes les hypothèses pour qu'il ait le droit à répétition. Cette jurisprudence était très souvent non pertinente parce qu'elle imposait au solvens qui demandait la restitution des sommes la preuve du fait qu'il s'était trompé en payant, la preuve de son erreur, et la preuve de cette erreur était souvent difficile. La Cour de cassation est ensuite revenue à une lecture et une interprétation limitée dans un arrêt d'assemblée plénière très important du 2 avril 1993. La réforme du droit des contrats est dans le sens d'une condition de l'erreur limitée au seul cas d'indu subjectif dans lequel l'accipiens est le vrai créancier et le solvens n'est pas le vrai débiteur. Section 2, le régime de l'action en répétition. Paragraphe 1, les parties à l'instance. La première question qu'on pourrait se poser, c'est mais qui exerce l'action en répétition ? Et contre qui s'exerce l'action en répétition ? Alors, qui exerce l'action en répétition ? C'est pas très difficile. Le demandeur, c'est celui qui a payé à tort, qui a effectué le paiement, c'est le solvens. Ou bien ça peut encore être ceux à qui il a cédé sa créance de restitution. Ou bien encore ceux qui sont subrogés, qui prennent sa place dans le lien d'obligation. Ou encore à celui pour le compte et au nom duquel le paiement a été fait. Ce sont les personnes visées, d'ailleurs, dans un arrêt du 25 janvier 2012 de la troisième chambre civile. L'action en répétition de l'indu, je cite, « appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés, ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. » L'action peut être exercée par le solvens, bien sûr, le mandant du solvens encore, les créanciers du solvens, qui agiraient par la voie de l'action oblique. De l'autre côté, qui est le défendeur ? Contre qui s'exerce l'action en répétition ? Elle peut évidemment s'exercer contre celui qui a reçu le paiement, mais peut-elle aussi s'exercer, le cas échéant, contre celui qui en profite de ce paiement. On a longtemps estimé que ça n'était pas possible. Je prends un exemple. Un assureur paye une dette de son assuré à un tiers. Cette dette existe, elle existe réellement, mais elle n'est pas couverte par le contrat d'assurance. Si l'assureur agit en restitution, doit-il agir contre son assuré ou doit-il agir contre celui à qui il a versé les sommes indûment ? Eh bien, en principe, on considérait qu'il ne pouvait agir que contre le vrai bénéficiaire de l'indu, c'est-à-dire seulement celui qui a effectivement bénéficié du paiement. Donc, dans l'exemple que je viens de prendre, il ne pouvait pas agir contre son assuré, il pouvait agir contre celui qui avait reçu les sommes indûment. À présent, la réforme innove à l'article 1302-2, alinéa 2. L'article 1302-2, alinéa 2 prévoit désormais que le remboursement peut aussi être demandé à celui dont la dette a été acquitté par erreur. Paragraphe 2, les effets de l'action. L'action s'exerce contre l'accipiens en vue d'obtenir la restitution des sommes et afin de revenir au statu quo ante, c'est-à-dire afin d'effacer le paiement indu. Alors, il peut y avoir différents problèmes. Par exemple, une chose peut avoir été l'objet du paiement. Alors comment on fait pour obtenir restitution ? Est-ce qu'on doit tenir compte de la valeur de la chose au moment de la restitution ? Est-ce qu'on doit tenir compte des fruits perçus par l'accipiens qui a reçu le paiement indu ? Des fruits perçus entre le moment où on lui a remis la chose en paiement et le moment où il devra restituer cette chose. Est-ce qu'il faut condamner l'accipiens si jamais on lui a versé non pas une chose mais des sommes ? Est-ce qu'on doit condamner l'accipiens à verser des intérêts sur les sommes indues qui lui ont été versées, dont il a, par hypothèse, profité durant un intervalle de temps ? À toutes ces questions, qui sont des questions liées à une action en restitution, et pour lesquels on va appliquer les règles générales relatives aux restitutions telles qu'elles sont prévues désormais aux articles 1352 et suivants du Code civil, on peut dire que tout dépend du point de savoir si l'accipiens est de bonne foi ou non. Si l'accipiens était de bonne foi, s'il pensait vraiment qu'il avait reçu un paiement correspondant à des sommes qui lui étaient dues de la part du débiteur, il va pouvoir conserver les fruits, il va pouvoir ne pas verser les intérêts. Et si c'est une chose qu'il a reçue et que cette chose, il l'a vendue dans l'intervalle, il en aura donc profité. Il devra restituer de la le prix de la chose. Il devra restituer le prix de la chose, mais pas plus. Pas plus, c'est-à-dire pas l'excédent de valeur, car il est de bonne foi. Et donc, si la chose vaut encore plus au jour où il doit restituer les sommes, on ne tiendra pas compte de l'excédent de valeur. Il devra restituer le prix qu'il a perçu au moment où il l'a vendu. Je vais finir par un petit cas particulier qui est celui de l'article 1302-2, alinéa 1er. Je voudrais que vous imaginiez que l'accipien, c'est le vrai créancier. Autrement dit, celui qui a reçu les sommes, on lui devait bien de l'argent. Mais par hypothèse, s'il y a un dû, il les a reçus d'un autre que le vrai débiteur. Lui, comme il a reçu les sommes et qu'on lui devait de l'argent, il peut avoir supprimé son titre de créance, c'est-à-dire la preuve qu'il est créancier. Et le problème, c'est que s'il rend les sommes au solvens, on va peut-être, de ce fait, l'empêcher d'obtenir le paiement qui lui est dû, puisque après, il va falloir qu'il agisse contre le vrai débiteur. Et s'il a supprimé son titre de créance, on l'empêche d'agir contre le vrai débiteur. Bref, dans ce cas, on empêche le solvens d'agir en répétition, en restitution, car le titre a été détruit, mais il faut évidemment qu'il ait été détruit de bonne foi. Il faut dire un mot enfin de l'obligation du solvens. Et par application des règles relatives aux restitutions, je songe à l'article 1352-5 du Code civil. On doit tenir compte des dépenses que peut avoir faites l'accipiens, dépenses nécessaires à conserver la chose qui lui aurait été remise en guise de paiement et dépenses qui auraient augmenté la valeur de la chose. Et dans ce cas-là, il doit pouvoir obtenir le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et être indemnisé des dépenses qui ont augmenté la valeur de la chose dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. Chapitre 3. L'enrichissement sans cause. Je vais débuter ce chapitre 3 par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1892, que j'ai déjà évoqué rapidement deux fois, et qui va vous donner une compréhension immédiate de ce qu'est un enrichissement sans cause. On est dans l'hypothèse suivante. Il s'agit d'un vendeur d'engrais qui vend de l'engrais, puisqu'il est vendeur d'engrais, et ce vendeur d'engrais vend de l'engrais à celui qui exploite un terrain. Ce terrain devient fertile, ce terrain prend de la valeur. L'agriculteur qui l'exploite ne peut pas payer, il n'a pas d'argent. Et du coup, la question est de savoir si le vendeur peut se retourner contre le propriétaire du terrain, car au fond, ce propriétaire, il profite de l'effet de l'engrais. Son terrain a en effet pris de la valeur et par conséquent, on est dans une hypothèse où le propriétaire s'est enrichi sans cause tandis que le vendeur, lui, s'est appauvri. Et la Cour de cassation va dire dans cet arrêt du 15 juin 1892 que le vendeur peut se prévaloir d'un enrichissement sans cause du propriétaire. Enrichissement sans cause qui ouvre droit au vendeur d'engrais à agir contre le propriétaire. C'est un troisième quasi-contrat, aujourd'hui consacré dans le Code civil, à l'article 1303. Section 1, origine et fondement de l'action. Elle trouve son origine, elle, c'est l'action visant à obtenir une indemnisation pour l'enrichissement sans cause, qu'on appelle action D-D-E-IN-I-N, REM-R-E-M, verso, V-E-R-S-O, l'action D-IN-REM-verso, action D-IN-REM-verso ouverte sur le fondement de l'enrichissement sans cause, elle trouve son origine dans un principe général, selon lequel celui qui s'enrichit injustement doit indemnisation à celui qui s'est appauvri en contrepartie. Et ce principe général, il repose sur l'idée fondamentale qu'on a étudiée en première année, d'équité. Idée d'équité selon laquelle le déséquilibre des patrimoines doit être résorbé. Sinon, ce serait injuste. Ce serait injuste qu'il en aille autrement. Et cette idée, d'ailleurs, de rééquilibrage de patrimoine, si on avait le temps, je pourrais vous montrer qu'elle traverse le Code civil dans diverses dispositions et qu'on en trouve ici une expression pleine et entière dans la consécration d'un quasi-contrat permettant l'action de in rem verso au profit de celui qui s'est appauvri et à l'encontre de celui qui s'est enrichi sans cause. Alors, quel est le fondement de cette action en rééquilibrage des patrimoines? Il y a eu plusieurs propositions. La doctrine a avancé plusieurs idées de fondement. Plagnol, ça s'écrit P-L-A-N-I-O-L, Plagnol. Plagnol a dit, au fond, l'action de in rem verso, cet enrichissement sans cause, c'est une action en responsabilité. Non, Plagnol avait tort. Parce qu'il n'y a pas de faute. Enrichir sans cause quelqu'un, ça n'est pas commettre une faute. Et donc, il n'y a pas d'action en responsabilité. Ripert, lui, a parlé de consécration du risque-profit. Et il a fait valoir que chacun doit restituer les profits dont l'activité d'autrui lui aurait permis de bénéficier. Ça se tient. Roast, R-O-U-A-S-T, a dit que c'était une application de la théorie de la cause que l'on a étudiée en matière de contrat, qui s'appliquerait ici à un paiement sans cause, dépourvu de cause. Je crois que ces idées sont intéressantes, même si celle de Plagnol n'a pas de pertinence. Elles sont intéressantes, mais en réalité, il y a ici un fondement original, inédit. Il n'y a pas de rattachement possible à un fondement préexistant. C'est bien une idée d'enrichissement sans cause, non rattachable à une institution existante, qui a elle-même, en elle-même, justifie l'action des in rem verso. C'est l'idée d'équilibre des patrimoines. C'est l'idée d'équité. Section 2, le régime. Paragraphe 1, les conditions de l'action. Il y a 5 conditions à l'action. N'ayez pas peur de ce chiffre 5, ça va aller vite. Première condition, il faut un enrichissement. Par exemple, l'augmentation d'un actif. Par exemple, le fait d'éviter une dépense. Le fait d'éviter une perte. On a même admis qu'un avantage moral puisse valoir enrichissement. C'est l'exemple de l'instituteur qui enseigne sans être payé à des élèves. Il y a pour eux un avantage moral qui doit alors être quantifié. Deuxième condition, il faut un appauvrissement. Un appauvrissement qui soit le symétrique de l'enrichissement, qui lui corresponde. Qui doit aussi en être le corollaire, il doit être corrélatif. Cet appauvrissement, il désigne toute perte appréciable en argent. Troisième condition, il faut une absence de cause. Critère et condition très importante qui est posée à l'article 1303-1. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il existe une obligation préexistante ou une intention libérale qui justifie l'enrichissement en question. S'il y avait une obligation préexistante, une intention libérale, on serait dans un autre domaine, mais on ne serait pas dans l'enrichissement sans cause. Quatrième condition, il faut une absence d'intérêt personnel. C'est l'article 1304. 3-2 qui le rappelle. Si l'appauvri a agi à son profit, alors il n'a pas d'action. Exemple, voici un copropriétaire qui pose un paratonnerre sur le toit de la copropriété. Ça va profiter à ses voisins, c'est indéniable, mais il le met pour lui. C'est dans son intérêt personnel qu'il l'a mis, et c'est surtout dans son intérêt personnel qu'il a agi, il n'aura pas d'action. Cinquièmement, il faut que l'action qui résulte de l'enrichissement sans cause ait un caractère subsidiaire. Autrement dit, si une autre action est possible, il n'y a pas d'action en remboursement. De même, si une autre action existe mais est prescrite, ou bien encore si ses conditions ne sont pas réunies, il n'est pas non plus possible d'agir en enrichissement sans cause. Pour le dire autrement, l'action de in rem verso, l'action née de cet enrichissement sans cause, n'est pas une roue de secours qui viendrait profiter à un créancier qui aurait perdu son droit d'agir sur le fondement de son action initiale. Paragraphe 2, les conséquences de l'action. Cette action de in rem verso, elle donne droit à une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement au profit de celui qui s'est enrichi. Bon, j'ai dit ça beaucoup trop vite, je vais le répéter. On regarde la valeur de l'enrichissement, on regarde le coût de l'appauvrissement et on prend la moindre des deux valeurs pour rééquilibrer les patrimoines entre l'enrichi et l'appauvri. Vous comprenez bien que, par exemple, l'engrais peut avoir coûté moins cher que l'enrichissement, la plus-value apportée au terrain. Et bien dans ce cas-là, on prend la moindre des deux sommes, c'est-à-dire le coût de l'engrais. L'appauvrissement est constaté au jour de la dépense. L'enrichissement est constaté au jour de la demande, et ils sont tous les deux évalués au jour du jugement. Si jamais l'enrichi est de mauvaise foi, on renverse la solution précédente, et alors l'enrichi de mauvaise foi devra non pas la moindre des deux sommes, mais la plus forte des deux sommes. Alors évidemment, on ne va pas déroger à la tradition. On va se quitter en chanson. Et comme aujourd'hui, lundi 11 mai, c'est le jour du déconfinement, je me suis dit qu'on pouvait être un petit peu hyperbolique, plein d'espoir et plein de détente. C'est peut-être un peu excessif, mais après tout, rien n'interdit de se détendre un tout petit peu. À très vite.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. In got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me, I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy.
Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried.